7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, quel est le visage de la mobilisation des jeunes pour le climat ? La COP25 s'ouvre à Madrid après des mois d'un engagement nouveau de la jeunesse qui s'oppose aux générations plus âgées en les accusant de dilapider l'avenir de la planète. Les Friday for Future, les vendredis de grève scolaire et autres marches nationales sont partout, virales sur Internet et dans les rues des grandes villes. Avec une égérie, la jeune Suédoise dont le nom ne vous aura pas échappé, Greta Thunberg, 16 ans. Alors derrière ces stars du climat, quel message cette génération engagée veut-elle adresser à ses aînés ? Comment compte-t-elle désormais peser aussi sur les décideurs internationaux, acteurs politiques et économiques, alors que la hausse de la température pourrait atteindre 3 degrés en 2050 au rythme de notre croissance actuelle ? En quoi cette jeunesse mobilisée dérange parfois aussi les plus âgés ? Quelle place peut prendre la jeunesse africaine dans ce mouvement mondial quand certaines voix rappellent que penser au climat, ça reste pour beaucoup un privilège ? C'est un reportage et un voyage au cœur des jeunesses de l'Europe à l'Afrique, signé Charlie Dupio.
Allez, pas là, vous êtes chaud ou quoi ?
Quand on parle climat, les gens croient qu'on parle d'autres choses qui ne les concernent pas. On parle de leur avenir, on parle de leur vie, des générations qui vont venir après eux.
La génération climat en air des Congo, c'est une jeunesse consciente qui n'a pas de planète B.
Plus chaud que le climat.
Nous, on est maintenant peut-être des victimes de l'inaction de nos grands frères. On refuse d'être comme vous.
Moi, je rêve en fait d'une génération écolo en fait. Je suis en train de vouloir créer en fait la diaspora verte béninoise.
C'est aussi trouver des solutions innovantes aux problèmes des changements climatiques.
On ne baissera pas les bras.
C'est une façon de refuser de croiser les bras et me plaindre. Mais c'est d'aller au front et agir.
On a donné une belle image de ce mouvement. Un mouvement déterminé, très joyeux, très créatif. Un mouvement qui est en train d'aller à la charge vers l'avenir. Pour dire que ça ne sert à rien de continuer à étudier pour un avenir qui n'existera pas.
Ambiance. Bonjour Charlie Dupio.
Bonjour.
Depuis le mois de mars dernier, vous suivez, depuis le début finalement, ce mouvement mondial, celui d'une jeunesse organisée, déterminée à Paris, à Grenoble, à Bruxelles, à Lomé, à Cotonou.
Oui, on va commencer par le Bénin, où ils sont plusieurs dizaines de jeunes à se mobiliser. J'ai rencontré les têtes pensantes de ce mouvement dans le jardin botanique de l'université d'Abomey-Calavi, un endroit calme, seul îlot de biodiversité urbaine du quartier où ils aiment bien se rendre.
Moi, c'est Anas Seko. Je suis étudiant en sociologie ici à l'université d'Abomey-Calavi. Je suis photographe engagé pour l'écologie.
Ok, moi, c'est Maman Ismaïla. Je suis resté sans parents depuis l'âge de 13 ans. Je me suis payé moi-même la scolarité depuis la 6e jusqu'à finir mes études. J'ai une formation de juriste. À part ça, je suis celui qui essaie d'unifier un peu la jeunesse autour du sujet écologique pour mieux impacter.
Je suis Francine Oboubé Kakbo, je suis blogueuse environnementaliste, journaliste de formation, j'ai 23 ans.
Comment vous en êtes venus tous les trois à vous engager sur cette cause-là ?
Un jour, le déclic chez moi, c'est quoi ? Chaque écologiste doit avoir sa goutte. Donc j'ai oublié ma goutte à la maison, mais j'avais soif, j'attendais au dehors. J'ai acheté un sachet de pirata. C'est de l'eau minérale qui est dans le sachet. J'ai fait le tour de la zone pour voir s'il y avait une poubelle dans laquelle j'étais. Le sachet, je n'en ai pas vu. Mais à côté, il y a un carnivore à ciel ouvert. Dedans, il y a des milliers de sachets de déchets plastiques. Vous savez, au Bénin, on ne gère pas le déchet. On déplace le déchet d'un point A à un point B.
Exactement.
Et nous, on s'est dit une chose, on ne va pas attendre l'État pour nettoyer chez nous. On avait déjà un programme pour le sport. On voulait jouer chaque samedi au football. On a dit, mais pourquoi ne pas transformer ça en un jogging qu'on va souvent faire et on ramasse des sachets plastiques. Sur le net, j'ai vu un monsieur avec sa bicyclette. Et c'est un Français. Avec sa bicyclette, il ramasse les déchets plastiques et il appelle ça course verte. Il dit, mais bon, course verte Bénin quoi. Donc du coup, c'est comme ça que ça a commencé.
Sans vélo, mais à pied.
Mais à pied. Ça, c'était en 2017. Hein. On n'a jamais manqué un samedi.
Et vous changez de quartier?
Au départ, c'était d'abord dans Calabi. Mais les gens commencent, mais venez faire la course, venez chez nous. On est venu à Cotonou plusieurs fois, on a été à la plage.
Et vous êtes combien en moyenne pendant ces courses?
La première course, c'était 4 personnes. Mais la jeunesse binoise aime le fun,
le buzz.
Parce que quand on finit, il y a le after, où on fait des photos, bling bling, et on partage. Donc du coup, il y en a qui viennent à cause des photos, et après, ils sont convaincus.
Ah, il y a l'idée aussi de se montrer en train de nettoyer.
Voilà, vous voyez.
Le buzz, c'est le miel qui attire la jeunesse béninoise.
On a fait une photo qui a marqué. C'est une photo où je m'étais mis en costume, je suis assis exactement comme dans un bureau. On a reproduit, comment on appelle, un cadre de bureau sur un tas d'ordures. Au cœur de Calavi ici, devant la maison d'une autorité locale.
Oui, on peut la voir.
La photo est là.
Donc effectivement, c'est un bureau avec un écran d'ordinateur, un clavier. Vous êtes en costume et vous êtes sur un tas d'ordures. Dehors en fait, en plein air.
On l'a partagé sur l'internet et les gens qui ont commencé par relayer la photo. Il y a même un ancien ministre du gouvernement qui a partagé aussi la photo.
Elle date de quand cette photo?
C'est en novembre 2018.
Oui. Vous savez, nous sommes, et Francine et Anas et moi, nous sommes des passeurs. Et vous voyez, au Bénin, quand on parle d'écologie, les gens ne savent pas ce qu'on appelle l'écologie. Et ça crée des problèmes pour nous, dans ma famille. Parce que les gens me disent, mais c'est ça ce que tu as trouvé à faire?
La fois dernière, j'ai dû lutter contre ma propre famille qui me disait que j'étais devenu fou. Écoutez, j'ai eu une sœur qui a vu mes photos écologiques, qui a dit, mais écoute, pourquoi tu es dans les ordures? J'ai dit, non, en fait, si vous ne voyez pas la portée de ce que je fais, laissez-moi vous expliquer. Dit, non, jamais, jamais. Et elle a appelé maman.
En Afrique, généralement, c'est ça. Il ne faut pas tenir compte de ce qu'on vous dit. Il faut faire d'abord. C'est quand vous le faites, en fait, qu'on voit que ah, c'était bien, tu réussis assez bien.
Donc finalement, par rapport aux autres jeunesses mondiales, vous êtes connectés. Vous avez des difficultés que peut-être ailleurs on a moins, à savoir la question du bénévolat, de la manifestation, des ressources humaines.
Et aussi, comment on appelle, le financement, parce qu'il faut se déplacer. Sous peu, nous allons faire la portée, ça c'est clair. On n'a pas le choix. Parce qu'il nous faut, par exemple, des maires écologistes.
Donc là, on entend peut-être le prochain maire d'Abomey Calavi.
Déjà, quand on a commencé, beaucoup de politiciens nous ont appelés. On nous a fait la cour, mais on a refusé. Parce qu'on va étouffer le message écologique. Même Francine, pourquoi pas une maire écologiste? Non, c'est ça.
Mais c'est facile, vraiment.
Mais nous, on ne va pas vers la politique. C'est pas pour l'argent. C'est pour sauver la génération future.
Quels espoirs vous avez sur l'engagement de la jeunesse béninoise, qui pour l'instant n'est pas impliquée dans sa globalité?
Si jamais la jeunesse africaine n'est pas mobilisée, ne s'intéresse pas assez à l'écologie d'ici 5 ans, ce serait notre faute. Il y a cela un an, sur les réseaux sociaux, c'était la musique et les filles. Mais actuellement, ce qui fait le buzz sur Facebook, c'est l'écologie. Ça, je ne vous le cache pas. Quand on a parlé de la marche dans ce pays, les gens m'ont dit, marcher au Bénin, tout le monde avait peur. C'était nouveau, oui, c'était nouveau. Tout le monde avait peur.
Peur de quoi?
Ah, la culture béninoise ne permet pas de marcher. Parce que quand tu marches, c'est forcément tu es contre le gouvernement. Et être contre le gouvernement au Bénin, c'est très grave. Ça te vaut la prison. Et pourtant, nous, on a dit, on ira.
Mais pour une marche, on n'a besoin de rien du tout. Il faut juste des cartons qu'il faut découper. On n'achète pas les cartons. Les cartons sont là. Il faut rassembler, écrire et tout. L'idée qu'on veut faire passer, en fait, ce n'est pas de montrer que bon, le Bénin aussi marche parce que la France a marché. Je pense que c'est un signal fort, en fait, que la jeunesse béninoise se lève aujourd'hui pour parler de climat. Ce n'est pas évident. Parce que la marche, vous pouvez être deux en train de marcher. Et sur la route, les gens viendront avec vous. Parce qu'ils ont adhéré à l'idée.
Ça va faire l'effet tâche du. Trois jeunes maliens ont créé un forum dans lequel ils m'ont mis. Ils disent, dès que vous allez finir votre marche là, venez au Mali et nous-mêmes, on veut faire la même chose. Parce que vous voyez, on leur a donné en réalité le goût de le faire. Nous sommes un peu comme la lumière, mais c'est pas ça. Et nous, on savait que si jamais ça réussissait au Bénin, avec nos propres moyens, on irait au Mali, on irait au Togo. Et à un moment donné, ce ne serait plus un pays qui va marcher, ce serait plutôt l'Afrique qui va marcher.
Alors cette marche pour le climat, Charlie Dupiot, elle a bien eu lieu à Cotonou, au Bénin, le 22 juin dernier.
Oui, après avoir été plusieurs fois annulée, reportée, elle était d'abord prévue le 20 avril, le même jour que d'autres marches à travers le monde. Problème, au Bénin, on était à la veille d'élections législatives et la préfecture de police avait préféré annuler la marche pour des risques de tensions politiques. Aujourd'hui, ils continuent ce qu'ils appellent les courses vertes Bénin, chaque samedi matin, avec parfois jusqu'à 70 personnes qui viennent prêter main forte pour ramasser tous ces déchets. Des déchets qui pour l'instant s'accumulent chez eux dans l'attente d'être triés, recyclés. Voilà donc ces plages jonchées d'ordures qui incarnent le réchauffement climatique et la pollution, entre autres par le biais des océans.
Le 20 septembre dernier, ils ont été 4 millions de jeunes dans le monde entier, donc à marcher pour le climat. Ça a été très relayé dans les médias, avec toujours la même demande partout aux gouvernements respectifs, celle de respecter l'accord de Paris adopté en 2015, qui prévoit de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, si possible à 1,5 degré. Et en France, les marches ont été très nombreuses depuis mars dernier.
Je suis allée notamment à la marche du siècle à Paris, le 16 mars dernier. On est encore au tout début du mouvement en France. Et à Paris, cette marche du siècle rassemble déjà à ce moment-là 100 000 personnes, selon les organisateurs, et 36 000 pour la préfecture de police.
Hey, Paris, ça va ou quoi ? Et on a pris tous les grands boulevards quand même, hein. On peut s'applaudir, c'est un grand succès, non ?
Alors, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Bon, j'ai 18 ans. C'est quelque chose qui me porte depuis très longtemps. Depuis le collège, je me suis bien rendu compte. J'ai passé 3 ans à Biarritz, qui est une station balnéaire, dans le sud-ouest de la France. Et j'ai vu de la pollution et... C'est triste, alors que quand j'étais petite, j'allais toujours à Biarritz me baigner, que maintenant, je devienne la personne qui dit « Oh, je suis pas sûre », ou « Il faut absolument que je prenne une douche après m'être baignée dans la mer ». Je veux dire, c'est ridicule. Comment est-ce qu'on peut en arriver là ? Et comment est-ce qu'on peut ne pas changer drastiquement, en fait ? Donc, au niveau de la pollution, j'ai commencé à vraiment m'instruire, on va dire.
Là, tu es au lycée ?
Oui, je passe mon bac. Là, bon, mon concours était hier.
Un concours de quoi ?
Une école de sciences politiques et de relations internationales. Hier, l'exemple, c'est que je préparais le concours, mais en même temps, je voulais absolument participer à cette cause qui est plus grande que moi, enfin, qui est plus grande que mes devoirs, c'est le devoir de tous, en fait. Du coup, avec mon ami, on révisait en même temps qu'on manifestait. Oui, parce qu'il faut bien le faire quand même. C'était une longue marche. Comment tu fais ? On prend des fruits secs, des fiches de révision, une pancarte, et ensuite, on plaque la fiche de révision contre la pancarte, comme ça, on peut lever les bras et lire en même temps. Voilà.
Ah, donc tu la plaques sur le dos de ta pancarte.
Exactement. C'était le chapitre les conflits géostratégiques du Proche et Moyen-Orient depuis 1945.
Et sur ta pancarte de l'autre côté, qu'est-ce qu'il avait écrit ?
Sortons nos mains de nos poches et remontons-nous les manches. Cette année, je me suis vraiment rendu compte, même si je le savais déjà et j'étais révoltée de voir l'inaction des petits. Enfin, je sais qu'on regarde des vidéos, des TED Talks, des conférences, etc., qui nous apportent plein de solutions qui sont logiques et qui sont possibles. Je veux dire, c'est possible de le faire, seulement ce n'est pas fait. Parce que notre mouvement, il doit prendre autant d'ampleur que mai 68.
Les petits pas, les petits pas ! Ça suffit pas, les petits pas, les petits pas ! Ça suffit pas !
Ça y est, on est arrivé à la place de la République.
Contre l'humanité ! Et deux, et trois degrés !
Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Quel âge vous avez ?
17 ans. 16 ans.
Et alors, donc, vous êtes là, place de la République pour la marche pour le climat. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, on se sent complètement impliqué dans cette manifestation, puisque c'est nous qui allons vivre avec ce climat-là. Dans le futur, en fait. Bah, ça nous fait totalement peur, puisque on voit déjà les conséquences du réchauffement climatique dû à l'effet de serre. Et ces conséquences ne font que augmenter chaque jour.
Pendant 2 jours, là, dans tout le monde, il y a des manifestations qui se font. Et que, bah, du coup, ça va prendre de l'ampleur, parce que s'il y avait que la France, je pense que ça bougerait pas beaucoup. Mais là, comme il y a plusieurs pays...
Vous êtes en quelle classe ?
En première.
Première.
Dans le même lycée ?
Ouais, c'est à côté d'Orly, à Antony.
Vous êtes venu de là pour la manifestation ?
Ouais, 50 minutes en train.
Est-ce que c'est un peu une mode aussi, ce mouvement-là, pour vous ?
Par rapport à hier, il y a beaucoup de personnes qui y sont allées pour louper les cours.
Je sais pas, pour moi c'est pas une mode, c'est en moi, genre.
Comment vos parents voient votre engagement ?
Bah, comme moi, ils savent que ça me tient vachement à cœur, ils me soutiennent totalement. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce qu'ils ont accepté que je vienne à cette manifestation et...
Et tu leur demandes leur avis ?
Oui, quand même, parce qu'ils ont toujours peur qu'il y ait un attentat ou quoi que ce soit, donc je leur dois quand même de demander.
Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité.
On marche doucement comme les politiques climatiques. Ces marches misent aussi sur des slogans très ironiques pour des jeunes dont une grande partie n'avait jamais milité jusque-là, Charlie Dupiau.
Oui, avec une prise de conscience commune à la lecture du rapport du GIEC d'octobre 2018. Alors le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Selon ce rapport, il ne reste que 12 ans pour redresser la barre et limiter le réchauffement planétaire à un maximum de 1,5 degré en faisant bien sûr les efforts nécessaires. Alors ces néo-militants ont opté pour un mode d'organisation horizontal, décentralisé, mais ils ne sont pas complètement en rupture avec leurs aînés. C'est ce qu'a montré un collectif de chercheurs, Quantité Critique, qui suit le mouvement en France depuis le début. Ces jeunes, comme leurs parents, sont idéologiquement à gauche. Ils sont issus de la classe moyenne et des classes supérieures, voilà, du salariat qualifié comme on dit. Certains sont lycéens ou étudiants et à Paris par exemple, ils sont très diplômés. 60% ont au moins un bac plus 5. Ceux qui travaillent sont le plus souvent cadres ou dans des professions intellectuelles contre 8% d'employés. Et c'est intéressant car selon une enquête Ipsos Le Monde publiée en septembre, l'environnement est devenu une réelle priorité pour les Français et c'est même la deuxième préoccupation la plus importante pour les ouvriers et employés, ça c'est nouveau, derrière le pouvoir d'achat.
Ouais. Et une jeunesse essentiellement donc de classe moyenne voire privilégiée, pourtant tous les jeunes engagés ne viennent pas d'un milieu favorisé, Charlie.
Non, et le nom de Robin Julian ne vous dit sûrement rien. Pourtant, il a beaucoup en commun avec Greta Thunberg, à laquelle il voue une immense admiration et qu'il a d'ailleurs rencontré grâce au mouvement. Alors Robin a 17 ans, il a grandi près de Grenoble, une ville qui compte à sa tête un maire Europe Écologie Les Verts, Éric Piolle. Et chaque vendredi après-midi, depuis presque 10 mois, Robin fait grève dans le centre-ville de Grenoble à 1h30 de chez lui, en bus. Il est le seul en France à avoir tenu aussi longtemps ses permanences, comme il les appelle. Je le retrouve à la sortie de son lycée à Vizy, au sud de Grenoble. Nous sommes vendredi, il est 11h50 et la cloche vient tout juste de sonner.
Salut Robin. Enchanté, Charlie. Tu sors du lycée ?
Ouais, c'est un lycée général et professionnel.
Et on est au milieu des montagnes, là.
À l'entrée de la vallée de Loisans. Je suis en terminale bac pro système numérique, en électronique et en informatique.
Et donc là, tu vas sécher les cours ?
Ouais, ce matin, j'ai pas séché les 4 premières heures du matin parce que du coup, c'est des cours de travaux pratiques que je peux pas vraiment rater. Par contre, après, j'ai français et économie cet après-midi, donc 3 heures. Mais les professeurs me soutiennent. Et du coup, ouais, cette semaine, c'est la 43e semaine de grève. En fait, je pensais pas que, quoi, 8 semaines après, je me semble. Le 15 mars, on soit 200 000 à marcher en toute la France et plus de 2 millions dans le monde. C'était juste fou. Donc c'est devenu un petit peu mon travail à plein temps, quoi. Enfin, travail qui paye pas, mais c'est un peu mon but d'essayer de contribuer à ce monde et de faire en sorte qu'il aille mieux, quoi.
On va prendre ton bus ?
Ouais, c'est le 3000, c'est la ligne qui va de Bourg-d'Oisans. Oula, on va se par là-bas. Un petit village paumé à l'autre bout de la vallée. Jusqu'à Grenoble. Voilà.
On est rentré dans le bus. On va où ?
À Grenoble, donc au jardin de ville, qui est un parc en fait. Hein, voilà, maintenant il fait un peu froid, du coup il n'y a plus grand monde, mais qui est un parc assez grand qui est dans cette ville du coup de Grenoble.
Bonne journée.
On est dans le centre-ville de Grenoble.
45 minutes de bus depuis ton lycée.
Ah. Ouais. Plus grand monde dans le parc maintenant, c'est l'hiver.
Là, ça y est, on est arrivé dans l'endroit où d'habitude tu te mobilises le vendredi, donc un grand parc.
Avant, j'étais à la mairie, du coup.
Tout seul devant la mairie, devant l'hôtel de ville.
Au début, je savais pas comment faire et tout pour le mouvement, il y avait rien en France. Et il y avait écrit un petit document, ouais, mettez-vous devant un bâtiment important. Et moi qui connaissais pas Grenoble, je connaissais que la mairie, du coup, je suis allé devant la mairie. Mais bon, voilà, la mairie, elle est avec nous, elle nous supporte. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à part de faire un peu mieux? Du coup, j'ai bougé dans ce jardin, du coup, jardin de ville. Et souvent, ce que je fais, c'est que je m'asseyais pendant 2 heures. avoir froid, mais ouais, j'apprends toujours beaucoup, je lis beaucoup ici.
Sur un banc au milieu du parc.
C'est ça. Et du coup, quand il y a le drapeau.
Ce que tu appelles le drapeau, c'est un bout de drap blanc sur lequel il y a écrit Fridays for Future, qui est le mouvement lancé notamment à l'initiative de Greta Thunberg. En Suède et qui est maintenant mondial. Et on voit le logo, c'est la planète Terre. En vert.
Oui, en vert, évidemment.
Concrètement, là, à quoi ça sert d'être sur ton banc avec tes livres et ta banderole ?
l'impact était à la base médiatique. En vrai, les premières semaines, j'étais seul, puis après, continuellement, on était entre 3 et une vingtaine. Et c'est un peu une permanence pour dire que bah, la France est là, sur Twitter surtout, du coup. Il y a Robin qui fait grève. En fait, moi, je suis pas quelqu'un d'hyper sociable, j'ai du coup syndrome d'Asperger. Enfin, j'ai beaucoup de mal à aller vers les gens. D'ailleurs, grâce à ce mouvement, je parle aux gens. Et du coup, Greta aussi a ce syndrome, d'ailleurs.
My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now.
Et justement, toi tu as 17 ans, elle a 16 ans, vous êtes quand même relativement similaires en âge. En quoi tu te sens proche de cette jeune militante qui a inspiré plein d'autres jeunes?
C'est son discours qui m'a fait bouger parce que en fait, on ressentait juste dans sa voix qu'il y avait une urgence, qu'il y avait quelque chose.
Tu parles du discours qu'elle a tenu en décembre 2018 pendant la COP24 à Katowice, en Pologne. Et ce discours-là l'a vraiment fait connaître auprès du grand public, notamment en France.
Je me suis dit, c'est quelqu'un comme moi qui a du mal dans la vie, qui est très timide. Je me suis dit, elle a réussi à lancer un mouvement de fou. Enfin, moi, j'étais le mec qui parlait pas, qui était toujours un peu au fond de la salle. Et en fait, Greta, elle a réussi à montrer que même si on est quelqu'un d'invisible, en fait, on pouvait faire quelque chose et elle a réussi à le faire. Donc ça m'a pas mal inspiré.
Donc toi, tu as grandi dans les montagnes, à 1h30 d'ici, donc dans les Alpes, on est dans les Alpes. Comment s'est noué en fait ton rapport à la nature, ton rapport à l'environnement quand tu étais enfant?
Alors mon père il est informaticien et ma mère elle est saisonnière en station de ski. Sur le temps libre de mes parents, chaque fois ils m'emmenaient dans la forêt. Enfin moi quand j'étais tout petit, j'avais 3 ans, j'étais dans un sac à dos dans lequel on met un bébé. Là et on se baladait beaucoup dans la forêt et ils me faisaient toucher les arbres, ils me faisaient faire des câlins aux arbres et tout. Et au milieu des montagnes, donc j'ai pu voir les glaciers fondre. Et du coup, j'ai engueulé un peu les gens de ma classe et de mon école quand ils jetaient des papiers par terre ou quand ils arrachaient les écorces d'arbres. Je m'en rappellerai toujours, les gens me disaient « Mais t'es fou, toi, y a aucun problème, c'est pas grave, mes papiers, ils vont rien faire, ils vont disparaître, de toute façon, ils vont se dégrader. » Ouais, ils vont se dégrader, mais ça va polluer la nappe phréatique, par exemple.
Est-ce que tu as essayé de te mobiliser à l'intérieur du lycée?
On va dire que je suis dans un lycée, alors j'ai en train un peu violent, peut-être, mais un peu de mouton, entre guillemets. Enfin, il faut que ce soit des gens qui soient... populaire entre guillemets, qui fasse les choses pour que les gens suivent.
Et toi, tu n'es pas populaire?
Non, mais aussi, ils sont tous d'accord sur le fait que actuellement ce qui se passe est grave, mais ouais. Pour eux, c'est vraiment, on s'en fout, au pire, c'est pas grave, autant vivre. Je trouve ça extrêmement égoïste.
Et comment tes parents voient ton engagement, et notamment le fait que tu sèches les cours?
J'ai 50 heures d'absence, et là, du coup, ça leur fait un peu peur quand même. Et je pense qu'ils ont bien compris que j'apprenais beaucoup avec ce mouvement. Alors l'année dernière j'avais 10 de moyenne en anglais, j'étais à la traîne quoi. Et ça m'a fait progresser à un point où maintenant j'ai 17 de moyenne en anglais. Du coup en fait ce qui se passait c'est qu'il y a les réunions internationales, par exemple sur Telegram.
Telegram c'est une appli de discussion, là on est sur ton smartphone.
Du coup, notre groupe on est 89, c'est plus les gens actifs du coup sur l'international et du coup c'est toujours en anglais quoi. Il y a des gens de tous les pays du monde. Beaucoup de gens d'Allemagne, parce que l'Allemagne est le pays le plus mobilisé du mouvement, du coup. Il y a un Russe, Arshak Makishen, qui est super sympa. Canada, Suède, bien sûr. L'Ouganda, il y a le Nigeria aussi, pour gérer, par exemple, les réseaux sociaux internationaux et tout. Et choisir, surtout pour choisir les dates aussi internationales, etc.
Donc ça se décide entre vous, en gros, par vos téléphones et par Internet?
Ouais, c'est ça. Enfin, on a des réunions sur Zoom, parfois. On est une vingtaine, une centaine, parfois. Enfin,
des réunions, tu veux dire, de visioconférence?
Ouais. Même en Afrique, en fait, c'est super mobilisé en fait en Afrique. C'est plus compliqué, je pense, pour eux de se mobiliser, et pourtant ils le font. Et à tout âge, on peut tout faire en fait. Enfin, quand je vois les gens, ils disent « Ah, t'as 17 ans et tu me racontes ta vie », mais ça veut dire que dans moins de 10 mois, j'ai 18 ans et que je vais d'un coup être moins naïf et plus intelligent et éclairé. Waouh. On est légitime, c'est tout. Et ce qu'on dit est vrai. Enfin, je vois beaucoup cette image de la voiture qui fonce dans le mur. Il y a un moyen de peut-être tourner, d'essayer d'éviter le choc. Et actuellement, on est en train d'accélérer, en fait, alors qu'il y a le mur en face.
This is all wrong.
Tout ça ne va pas.
I shouldn't be up here. I should be back.
Je ne devrais pas être ici, mais à l'école, de l'autre côté de l'océan.
The eyes of all future.
Les yeux de toutes les générations futures sont sur vous.
And if you
Et si vous choisissez de nous délaisser, je dis que nous ne vous pardonnerons jamais. Le monde se réveille. Le changement arrive, que cela vous plaise ou non. Merci.
Alors, je vois cette jeune Suédoise si sympathique et si souriante.
Les mobilisations de notre jeunesse ou des moins jeunes sont utiles. Là,
des positions très radicales, c'est de nature à antagoniser nos sociétés.
Cette bien-pensance, vous savez, ce terrorisme intellectuel, il est bien symbolisé, je trouve, par la petite Greta.
Qu'une enfant de 16 ans vienne nous expliquer que le monde est fini, vienne inciter les enfants à se déscolariser, je pense que sa place n'est pas sur les bancs de l'Assemblée nationale, mais sur les bancs de l'école.
Bonjour, je m'appelle Greta Thunberg et merci pour l'invitation.
Certains ont choisi de ne pas venir à cette réunion aujourd'hui. Certains ont choisi de ne pas nous écouter. Ce n'est pas grave. Après tout, nous ne sommes jamais que des enfants. Vous n'avez pas le devoir de nous écouter. Par contre, vous avez le devoir d'écouter les scientifiques. Et c'est tout ce que nous vous demandons. Unissez-vous derrière les scientifiques.
Qu'est-ce que vous pensez de Greta Thunberg? Ça vous dit quelque chose? Non.
J'ai vu l'histoire, mais je n'ai pas vraiment assez d'informations là-dessus, donc je préfère ne pas me prononcer.
C'est la même chose, hein?
J'en ai entendu parler, mais je ne la connais pas vraiment.
C'est une jeune militante qui a 16 ans en Suède et qui a inspiré beaucoup de jeunes, en fait, en Europe surtout, puis en Amérique.
Même si les gens la trouvent un peu plus jeune pour s'engager, je ne trouve pas vraiment ça réaliste que ces gens-là puissent dire des choses pareilles. Cet esprit-là de jeunesse, il faut vraiment le faire ressentir dans la société. Elle a aussi le droit de se battre pour une meilleure vie pour sa communauté, ses amis ou ses proches. Donc elle a raison. Et franchement, courage à elle. Je suis content. J'aimerais aussi bien imiter Alomé au Togo en Afrique. J'aimerais contribuer.
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI, de Paris à Lomé, la jeunesse mondiale engagée pour le climat. Charlie Dupio, là on vient d'entendre des réactions à Lomé au Togo, où le nom de Greta Thunberg est forcément un peu moins familier.
Oui, et on ne l'a pas attendu pour se mobiliser de toute façon, mais pour Thierry Amougou, économiste camerounais, les jeunesses africaines sont encore très éloignées de ces préoccupations climatiques dans leur majorité. Il enseigne à l'Université catholique de Louvain, je l'ai rencontré à Bruxelles, sous un déluge de pluie dû au réchauffement climatique ou à une météo capricieuse, on ne sait pas. En tout cas, Thierry Amougou a publié une tribune dans le journal Le Monde. Selon lui, la jeunesse africaine n'est pas mobilisée sur le climat.
Donc cette jeunesse-là a les problèmes du quotidien et marcher pour le climat est plutôt un luxe pour elle. Parce que c'est une jeunesse qui cherche que manger, comment faire pour aller à l'école, comment faire pour avoir accès aux besoins essentiels. Alors que c'est justement eux qui vont subir les effets les plus désastreux. Tous les travaux le montrent, que ce sont les plus pauvres qui vont subir les effets désastreux du climat.
Sur les continents africains aussi?
Oui, exactement. Le constat aujourd'hui, c'est que la jeunesse africaine, elle va se mobiliser, mais avec un retard. C'est-à-dire qu'il y a toujours un retard à l'allumage pour les sociétés du Sud. Ça doit d'abord commencer au Nord, où le développement a été inventé, où la question climatique est problématisée. Les marches qui ont eu lieu ici, d'ici quelques années, vont aussi être de grandes marches en Afrique.
Les marches qui ont lieu à Paris, à Bruxelles.
À Bruxelles, voilà. Mais ce sera avec un décalage, qui est aussi celui du développement.
Il y a une marche qui a été organisée au Bénin, ouais, le 22 juin dernier, ouais, à Cotonou, la marche pour le climat, dans un contexte d'ailleurs assez politique pour le Bénin, mais qui néanmoins s'est tenue. Mm-hmm. Malgré tout, déjà, ça commence.
Oui, mais j'ai un regard beaucoup plus critique par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il faut voir quelle jeunesse africaine va marcher. C'est la jeunesse moderne qui va marcher. Toute ville et classe aisée. Mais il y a une autre jeunesse en Afrique, et celle-là est très souvent dans les plantations, celle-là est très souvent très pauvre, en train de creuser dans les mines. Mais cette jeunesse-là, rurale, elle subit les effets, mais elle ne pose pas les mêmes mots sur le phénomène. Elle constate que dans son travail quotidien dans les plantations, peut-être que la saison sèche est plus longue, peut-être que le soleil est plus rude, voilà, elle constate des changements. Mais elle ne problématise pas que c'est parce que le climat se réchauffe. Donc l'urgence climatique qui est réelle n'est pas une urgence pour elle, cette jeunesse-là. Et ici, on s'est rendu compte, j'ai observé aussi les marches, j'ai pas trop vu les banlieues, même en Belgique, j'ai pas trop vu les banlieues même en France. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, mais quand même, ils ne brillaient pas par leur présence. Lorsqu'on se rend compte qu'en Europe, c'est une classe aisée qui se mobilise, en Afrique, c'est une classe urbaine, entre guillemets moderne, qui se mobilise, ça veut dire que le climat est un rapport social, le climat est un rapport politique. tous les gens qui sont les déclassés du capitalisme, que ce soit au nord ou au sud, ont autre chose à faire que de marcher pour le climat. Ça rejoint un peu ce que je disais, les gilets jaunes en France. Vous me parlez de la fin du monde, moi je vous parle de la fin du mois. Ça veut dire que lutter contre les inégalités, lutter contre l'injustice, lutter contre les décalages sur le plan social, c'est déjà travailler pour le climat. Vous voyez ? La question climatique qui implique les générations futures ne peut pas se faire sans la jeunesse africaine. Et le fait qu'elle ne se mobilise pas, ou qu'elle se mobilise avec un retard, est un gros problème concernant la question climatique. Ce n'est pas l'Occident, avec une population démographiquement vieille, ce n'est pas en Occident que se trouve l'avenir, la question climatique. Si on veut parler de l'avenir et de la jeunesse, c'est peut-être le continent africain qui doit mobiliser le plus de jeunes. Si on ne le fait pas, le continent le plus jeune au monde sera habité par des gens qui sont dans une pauvreté exécrable et qui n'ont pas la question climatique comme priorité. Ce sont des jeunes qu'il faut aider, qu'il faut éduquer, qu'il faut nourrir, qu'il faut éduquer à la démocratie, éduquer à la question climatique. Si on veut retrouver l'espoir, il faut regarder vers le continent le plus jeune et qui a le taux de croissance démographique le plus haut au monde.
C'est ça l'urgence aujourd'hui.
C'est ça l'urgence et c'est là l'espoir.
Thierry Amougou, économiste camerounais, remet en cause le capitalisme, un rapport au monde qui, selon lui, contribue à exploiter la nature jusqu'aux ultimes réserves, hydrocarbures, déforestation.
Et sur le continent, certains jeunes s'engagent sur des actions très concrètes, notamment sur la question des déchets. C'est le cas d'un groupe de jeunes à Lomé, on les a entendus très brièvement tout à l'heure. On les retrouve près de la lagune, dans le centre-ville de Lomé.
On est dans le quartier Gapoto, communément appelé Bé Gapoto, disons un vieux quartier, mais qui abrite beaucoup de jeunes de la capitale, mais qui fait vraiment pas la fierté de cette jeunesse-là. On a essayé le 21 septembre de venir nettoyer le quartier.
Est-ce que vous habitez dans ce quartier?
Oui, j'habite le quartier.
Et vous, Jean?
Et moi, j'habite à 200 mètres de ce quartier.
La lagune est juste à 50 mètres.
Les déchets qu'on trouve ici, là, on en voit d'ailleurs sur cette piste, c'est quoi en général? Là, on voit des sachets plastiques noirs.
Ce qui est souvent remarquable, c'est les sachets plastiques.
Des bouteilles, des canettes.
Donc là, vous avez nettoyé le caniveau, entre autres, et puis les bordures de la lagune, de ce côté-là de la lagune. Mais il y a de nouveaux déchets.
Il y a de nouveaux déchets à cause de l'incivisme qui grandit.
Donc vous qui habitez pas loin d'ici, dans ce quartier, qu'est-ce que ça vous fait de voir tous ces déchets dans les caniveaux, donc qui bloquent effectivement l'eau, l'écoulement de l'eau, donc ça pose des problèmes d'inondation?
En fait, c'est un grand problème. Donc nous, en tant que les riverains des quartiers environnement, ça nous gêne beaucoup parce qu'au moment où le caniveau ici est bloqué, l'inondation nous parvient là-bas.
Oui, ça peut aller, bon, disons à 10 cm, à 20 cm parfois.
10 cm à 20 cm du sol, c'est ça, hein?
Oui.
L'eau peut aller jusque-là.
Oui.
Le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas de poubelle, en fait, ici, pour gérer les déchets.
Souvent, les populations, ils ont des poubelles à la maison.
Et de plus, aussi, il y a des voitures de voirie, parfois, qui passent.
De la municipalité?
Oui, de la municipalité, qui sont gratuites.
La mairie passe tous les 3 semaines pour la collecte des déchets. Après, un enfant ou un adulte peut passer. Il peut apercevoir une poubelle à côté, ben. Lui, à 5 mètres, au lieu de se déplacer et mettre dans la poubelle, il a les pieds lourds et il préfère jeter par terre. Et quand tu interpelles, il te demande automatiquement, est-ce que ça c'est à toi? Est-ce que c'est ta maison?
Comment vous faites pour vos déchets à vous, chez vous?
Bon, moi par exemple, j'ai à la maison un petit carton. Ou même parfois, quand j'achète, on me donne du sachet plastique. Je sais que je n'en ai pas vraiment besoin. Je dis non. Le vendeur, il me trouve un peu bizarre.
Parce que vous dites non au sachet plastique?
Oui, au plastique. Pourquoi tu ne veux pas prendre? J'ai dit non, ça va, ça va. Et les bouteilles en plastique, il y a aussi de ces bonnes dames-là qui passent souvent pour collecter ces bouteilles en plastique. Donc, ils vont le revendre dans le marché. Il y a un marché, disons, à 2 km d'ici. Toute la communauté de Bergapoto se rendent là-bas pour s'acquérir les bouteilles en plastique et pour faire leur usage, peut-être pour, s'il s'agit des boissons locales, soda bi, le vin de palme ou que ce soit de l'huile de palme, pour faire leur commerce et revendre au marché
Donc en fait, ces dames récupèrent les bouteilles en plastique et les revendent à d'autres dames qui, elles, les utilisent pour vendre leurs produits.
On peut leur vendre ça. C'est un peu un petit commerce qu'ils se font dans le quartier. C'est un peu ça.
Donc tout le monde y trouve son compte.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est l'écologie qui est rentable. Oui.
C'est bien l'écologie.
Avant, en fait, les communautés, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils nettoient, ils enterrent souvent ces déchets. Mais avec notre participation et tout, la sensibilisation qu'on fait, on leur dit que ce n'est pas vraiment bien d'enterrer ces déchets. Donc le mieux, c'est de les trier.
Et alors, quand vous nettoyez un quartier, comment vous travaillez? Comment ça se passe?
Il y avait des groupes qu'on a mis en place avec des sachets plastiques et tout. Donc il y a un groupe, par exemple, pour des sachets plastiques, d'autres groupes pour des bouteilles, d'autres groupes pour des déchets organiques, le reste des nourritures, tout ça là, par exemple. C'est des groupes composés de 5 personnes. D'abord, on a fait un t-shirt pour l'événement, jaune.
Donc là, on parle du World Cleanup Day, donc qui a eu lieu en septembre. Et vous étiez combien de jeunes?
Presque 300 jeunes qui sont mobilisés, 6 heures du matin sur le site.
Ça a duré combien de temps?
5 heures de temps. Il faut les matériels, les gants, par exemple, ça s'achète. Les sacs poubelles, ça s'achète. Il y a aussi les cache-nez. Les cache-nez pour peut-être ceux qui seront au niveau des carnivaux.
Il ne faudrait pas que des gens viennent et qu'ils ne trouvent pas de matériel pour travailler. Et même avant même de motiver les jeunes, avant l'activité, il faut passer des communications. Pour ça, il faut payer peut-être des mégas pour pouvoir se connecter et publier sur les réseaux sociaux. Donc pour cela, il faut un petit budget.
Vous avez estimé ce budget?
350 000.
Donc autour de 450 euros. Et si on demandait aux habitants là, qu'on voit dans la rue un peu, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Bonjour madame.
Bonjour.
Vous habitez ici dans cette rue?
Oui.
En fait, donc là, ces jeunes, ils agissent pour le quartier, pour sensibiliser sur les questions de la propreté.
Oui, c'est très beau ce qu'ils font. Leur engagement, moi, particulièrement, ça me plaît. Là, ça va rendre le quartier toujours propre. En fait, pour ce qui concerne notre maison, les déchets que nous ramassons, il y a une société qui s'en charge. Ils viennent descendre dans une fois par semaine pour les ramasser. Nous payons les services privés qui viennent collecter. 1500 francs par mois.
Près de 2 euros.
L'environnement, il faut que nous protégions l'environnement. Si nous mettons les déchets dehors comme ça, plus tard, ça va nous causer des maladies.
Comment vous vous appelez?
Clémentine.
Et si c'est pas indiscret, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
En fait, moi, j'ai eu comme formation comptabilité, gestion, mais actuellement, je suis à la maison.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci. Bon, elle, c'est une habitante plutôt modèle.
Oui.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu des donneurs de leçons à la population, alors que c'est difficile, en fait, de recycler? Pour faire collecter ces déchets, en général, c'est payant.
C'est vrai que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Pour vraiment impliquer la population, ça ne se fera pas en une journée. Il faut déjà qu'on a commencé avec des actions, on ne pense pas s'arrêter. À la fin de l'activité, l'autre fois, il y avait des jeunes qui nous ont approchés. Eux, ils n'étaient pratiquement pas dans aucune association. Ils nous ont remarqué faire, ils nous ont rejoints. Il y a actuellement un groupe créé sur WhatsApp. Il y a déjà des petits messages de sensibilisation.
Ça, vous écrivez ça dans votre groupe WhatsApp?
Oui, on balance dans le groupe WhatsApp pour mieux gérer les déchets quotidiens.
La plupart, c'est le chômage qui gangrène. Donc du coup, ils ne sont plus tellement intéressés aux actions de volontariat. Du coup, tout ce qui ne leur ouvre pas des portes à un emploi décent et tout, ils ne sont pas intéressés. Pas le passé. Mais depuis quelques années maintenant, la donne a changé. Aujourd'hui, quand on veut citer les ONG qui travaillent, qui militent pour la protection, la préservation de l'environnement, de la nature, il y en a plein qu'on va trouver au niveau de la sous-région. Il y en a plein. C'est des jeunes de moins de 30 ans qui sont responsables de ces structures, qui font de bons boulots.
La gestion des déchets, c'est une des problématiques quand on parle du climat. Et c'est intéressant en fait, pourquoi vous, à Lomé ou du coup à Cotonou, vous intéressez aux déchets en particulier?
Si je prends maintenant le Togo, parce que c'est le Togo, c'est le Togo là de nature, pour mettre tout d'abord les localités de Lomé plus propres, de toutes les villes africaines qui sont bordées de sachets un peu partout.
Donc on s'est dit, si on commence la sensibilisation avec les déchets plastiques, les déchets organiques et tout, et maintenant avec ça, les gens sont sensibilisés, on pourra quitter l'étape là pour une autre étape.
Charlie Dupiot, ces jeunes militants qui sont mobilisés au Togo, qui prévoient de nouvelles actions de nettoyage et de sensibilisation au mois de décembre. Il y a une question qui se pose, c'est quel lien, quelle convergence réelle, puisque c'est un mot qu'on utilise beaucoup en ce moment, entre les mobilisations européennes et les mobilisations des jeunesses africaines.
Alors pour l'instant, très peu de liens. Écoutez ce militant de 22 ans.
On s'intéresse assez peu aux luttes africaines pour l'écologie, alors qu'on passe notre temps à dire qu'on ne sera pas les premiers touchés et qu'il faut une justice climatique et une justice sociale. Il y a une méconnaissance profonde de ce qui se passe dans la lutte dans les pays d'Afrique.
Petite lunette en métal, le teint pâle, Guillaume, c'est son pseudo, s'est très vite engagé au sein de Youth for Climate, l'organisation mondiale née en Belgique en janvier, qui a ensuite essaimé dans de nombreux pays comme en France, avec des antennes nationales. Guillaume est très méfiant avec les médias. Il a finalement accepté de raconter jusqu'au bout ses actions radicales et parfois illégales.
Alors j'ai grandi en banlieue parisienne, presque on pourrait dire en lointaine banlieue, là où il faut faire à peu près 1h30 de transport en commun, et encore si t'arrives à choper le bus, pour arriver jusqu'à Paris, dans une maison avec un grand terrain, avec juste à côté d'une forêt. J'ai passé mon enfance à jouer dans la forêt le week-end et les soirs après l'école. Voilà, je ne peux pas le nier que je suis issu d'une famille plutôt bourgeoise, où on a des moyens, on a un capital culturel, un capital financier. Et c'est un peu finalement par internet que j'ai commencé à m'intéresser à plusieurs trucs un peu de gauche, altermondialiste, seconde, première. Puis en 2016, avec Nuit Debout. Et
Nuit Debout, c'est un mouvement d'occupation de la place de la République à Paris. Ça a duré quelques mois.
Suite à une manif contre la loi travail. Et on a décidé de ne pas quitter la place. Et de l'occuper pour en faire un lieu de démocratie, justement, de discussion et de vie aussi. Là, j'étais déjà en première année de BTS, donc j'ai fait un BTS agricole. En tout cas, Nuit Debout n'était pas ouvertement écologique, ou en tout cas, c'est vrai que le mouvement écolo en 2016 n'était pas non plus hyper présent. Et ensuite, en 2019, je trouve que le mouvement climat a vraiment pris de l'ampleur à ce moment-là. C'est aussi le début des grèves du vendredi, de pas aller à l'école. Moi, je n'étais pas concerné, je m'en fous, je suis pas à l'école. Aujourd'hui, je fais des trucs militants tous les soirs, et de lutte contre le capitalisme, et avec cette couverture quand même écolo. C'est vraiment un engagement de tous les jours, en dehors des 40 heures semaine que je fais à mon taf, qui est en plus un taf qui est à peu près écolo.
Quel travail tu fais ?
Du coup, je fais de la sensibilisation à la nature et à l'agriculture en région parisienne. Donc notamment, il y a eu une manif devant le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui a été renommée à l'occasion de la trahison écologique et solidaire. Alors ça, c'était février-mars 2019. Alors on était devant... on était nassés devant. Nassés, c'est-à-dire que la police nous entourait et nous empêchait de sortir de l'endroit. On avait de la peinture rouge. Il y avait le panneau, ministère de la Transition écologique et solidaire, et on a barré transition, on a écrit trahison. Moi, j'imagine que ça a été effacé dans l'après-midi, mais l'idée était là.
On parle beaucoup, quand on parle du mouvement des jeunes pour le climat, notamment avec l'arrivée et l'irruption de Extinction Rebellion, ce mouvement qui est né en 2018 au Royaume-Uni et qui vise à occuper des lieux. On parle beaucoup de ce nouveau concept de désobéissance civile. Toi, qu'est-ce que tu fais concrètement qui ressemble à ça ?
J'étais l'une des deuxième ou troisième actions d'Extinction Rebellion en France, qui était de faire un happening devant H&M.
Enseigne de prêt-à-porter suédoise.
Où on s'était mis les uns à côté des autres devant les entrées d'H&M, on faisait une chaîne humaine. Et on avait fait un énorme tas de vêtements devant ce magasin, et avec des pancartes qui expliquaient les conditions de production de ces vêtements, et donc la pollution que ça entraînait, et les conditions de travail abominables que ça implique. C'était la première action à laquelle j'ai participé. On a occupé Italie 2.
Italie 2, c'est un centre commercial, place d'Italie, à Paris, dans le sud de Paris.
En fait, ça fonctionnait par groupe affinitaire, et chaque groupe avait plus ou moins une mission dès le début. Donc nous, le groupe Youth for Climate, tout ce qu'on savait, c'était qu'à, je crois que c'était 10h de mémoire, on devait faire une diversion dans le centre commercial, un samedi matin, à l'aube, pour attirer l'attention des vigiles. Et donc voilà, on s'était mis en cercle, et on créait des slogans, pollue, consomme et ferme ta gueule, voilà, des choses comme ça. Et pendant ce temps-là, pendant que les vigiles tournaient les têtes vers nous, tous les autres groupes en fait avaient pour rôle de rentrer dans le magasin et de bloquer les portes en position ouverte. Et un groupe était aussi en charge de décharger un camion qui était plein de palettes, qui du coup nous a servi à bloquer les issues en position fermée. Donc on s'est barricadé dans le centre commercial très vite.
Vous étiez combien en tout ?
Peut-être bien 400. Hein. Et on l'a tenu 18 heures de mémoire, Italie 2.
Alors qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là là, quand vous tenez en centre commercial ?
D'abord, on se réjouit. Et moi à ce moment-là j'étais masqué. J'avais un tour de cou qui montait jusqu'au-dessus de mon nez et un bonnet et des lunettes de soleil. Simplement parce qu'il y avait des caméras de sécurité partout et que pénalement c'est répréhensible. Oui, j'assume mes actions, il n'y a pas de problème. Par contre, si je peux continuer à les faire et pas me retrouver en prison, ça m'arrange. Après, on a pris le temps quand même de mettre des stickers ou de la peinture sur les caméras, donc ça aussi c'est pas bien. Hein. Des personnes qui disaient non, c'est de la dégradation. On dit qu'on ne ferait pas de dégradation, il faut qu'on reste, qu'on ait l'air gentil pour avoir le soutien populaire. Et en face, des personnes qui disaient, comme moi du coup, mais oui, mais c'est une façon aussi de se réapproprier le lieu, de faire passer un message. Parce que notamment, il y a quelqu'un, enfin, il y a un truc qui a fait grand débat à Italie 2, c'est quelqu'un qui a dû écrire Fuck le 17.
Le 17, c'est la police.
Ouais, le 17, c'est le numéro d'urgence de la police, écrit sur un rideau de fer qui fermait en magasin. Et du coup, il y a marqué Fuck le 17, et quelqu'un était en train d'effacer, enfin, un militant d'Extinction Rebellion effaçait consciencieusement ce tag. La personne qui effaçait le tag disait non, mais ça, par exemple, c'est violent d'écrire Fuck le 17, c'est violent. Parce que non, ça n'a rien avec l'écologie, on s'en fiche de la police, c'est pas la question. Il y avait beaucoup de blagues aussi, il y avait un tag de Greta Thunberg en train de lancer des pavés, je trouvais ça amusant. C'est sur une voiture de flic qui lance des pavés.
Ce garçon qui veut garder l'anonymat avec son pseudo de 22 ans, ça n'est ni un casseur ni un pilleur, Charlie Dupiot, mais un militant radical pour le climat. Greta Thunberg dessinée en train de lancer des pavés. Est-ce que cette image, finalement, ça incarne un tournant auquel fait face ce mouvement des jeunes pour le climat qui se radicaliserait ?
Oui, on voit que cette jeunesse mobilisée est tiraillée entre deux tendances. D'un côté, ceux qui veulent rester pacifistes, réformistes. De l'autre, ceux qui sont lassés par la politique des petits pas et qui défendent des actions plus radicales, voire violentes. Selon une enquête réalisée en France par le collectif Quantité Critique, 20% des jeunes engagés dans le mouvement sont favorables à des dégradations de biens, notamment dans des industries polluantes. Alors c'est encore une minorité, mais 90% des jeunes mobilisés soutiennent quand même ces actions de désobéissance civile. On en a vu d'ailleurs de nombreuses ce vendredi 29 novembre, en amont de la COP25, avec l'idée toujours d'une urgence de responsables politiques qui n'agissent pas assez rapidement. Alors comment vont évoluer ces mouvements, violents ou pas, ouverts socialement ou pas, et comment vont-ils, si jeunes, réussir à vraiment peser dans l'agenda politique à très court terme ?
Voilà les questions qui restent ouvertes. C'était un reportage de Charlie Dupiot en France, au Bénin, au Togo, en Belgique, avec Romain Dubrac à la réalisation. À demain les voisins et les voisines.
Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Je vois leur manigance, leur calcul politique. Je sais leur arrogance et leur vision cynique. Je te dis ce qu'ils en pensent du réchauffement climatique. Ils mentent avec aisance, c'est Pinocchio pathétique. Hey.
Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
Encore combien de temps vont-ils nous mettre la disquette? C'est sur le dos des mêmes qui font leur plus grosse recette. Y'a le sang d'innocents sur les mêmes.
Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.